Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Ma femme d'aujourd'hui vit une passion extrême qui lui donne une liberté utile pour gérer sa semaine professionnelle. Cette femme, qui passe son temps à gérer et à absorber les tensions des autres, s'est découverte sur le tard la puissance du sport automobile.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Mounia Loulidi, bonjour, merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Mounia ?
Bonjour Yasmine, eh bien, ça va très bien et je te remercie tout d'abord pour l'invitation.
C'est un plaisir de t'avoir. Alors Mounia, toi, tu es doublement connue. Tu es connue à travers, on va dire, ta pratique professionnelle et aussi à travers ton parcours de championne. C'est deux choses complètement différentes. L'une est très soft et l'autre est très brutale. Enfin, si je peux faire des raccourcis aussi rapides. Alors, juste pour mettre les gens dans le contexte, toi, tu es coach, tu es thérapeute holistique. Tu fais de l'accompagnement anti-addiction pour les phobies, pour les traumas, pour différentes formes de troubles. Tu fais du coaching personnel et professionnel. Ça, c'est le volet soft, j'ai envie de dire, réconfortant. Et le volet...
Je souhaiterais rajouter qu'à la base, je suis consultante en gestion administrative et financière des entreprises avec 20 ans d'expérience dans le domaine de la gestion, de la finance et des RH.
D'accord.
Avant d'être coach thérapeute. Je suis toujours consultante.
Oui, toujours consultante.
toujours dans le domaine.
Donc plusieurs casquettes en fait.
Voilà, voilà.
Plusieurs casquettes. Et cette autre casquette, moi, qui m'impressionne, c'est celle de la course automobile.
Mm-hmm.
C'est ça. Alors tout ça, c'est depuis combien de temps justement ? Est-ce que c'est évident d'allier les deux ?
Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque le sport automobile est une passion que j'ai développée de manière professionnelle. Donc, puisque je suis pilote de course automobile nationale et internationale, donc je cours sur les circuits de vitesse. Et ce sont des événements qui se passent les week-ends. Donc, je suis active en cours de semaine. Et le week-end, eh bien, je prends mon casque, je prends mon équipement, ma combi et mes bottines. Et je pars... pour l'aventure du week-end.
Mmh. Mais alors justement, Mounia, quand tu dis je prends mon casque, je prends ma combi, etc., mes bottes, etc., est-ce que c'est rentrer dans la peau de quelqu'un d'autre pour toi ?
Tout à fait, tout à fait. Je dirais que quand je démarre mon week-end de course, c'est comme si j'enlevais ma tête de la semaine et je mettais une tête du week-end. Mmh. Dans le sens où je me déconnecte complètement de ce qui se passe autour de moi dans la vie quotidienne. Et je suis là, sur le circuit, avec une famille du sport automobile, avec une ambiance complètement différente, une ambiance de sport extrême, donc qui est un petit peu dangereux. Et je prends plaisir, justement, et je me mets dans ce mood-là. Mm. Et je prends plaisir à vivre un week-end d'adrénaline, de frissons, de pleine aventure.
Alors justement, est-ce que c'est ta thérapie, Mounia ? Parce qu'en quelque sorte, tu passes la semaine à absorber le stress des autres.
Mm-hmm. Tout à fait, tout à fait. Parce que justement, le sport automobile, même si on est dans sa voiture derrière un volant, mais tout dépend de la technicité du pilote, notamment dans le cadre de la voiture que je conduis, parce que c'est une légende car qui est une formule américaine. Et les moteurs sont plombés, donc on ne peut pas venir ajouter des chevaux, blender le moteur. Le volant, donc, ce n'est pas une direction assistée, c'est brut. Les amortisseurs sont assez durs. Et ce qui fait que vraiment, c'est tout étant la stratégie. La voiture aussi, c'est une voiture qui est une propulsion arrière. Donc vraiment, un seul loupé au niveau de la conduite, eh bien, on peut partir en tête à queue et se faire carrément très mal. Ou carrément,
Simonia, j'ai rien compris à ce jargon.
Je suis désolée.
Non, mais c'est pas grave. Je suis sûre que beaucoup de personnes ont compris. Mais moi, elle a vraiment changé un pneu, je sais. Ça, je sais faire. Changer un pneu, je sais. Mesurer le niveau d'huile, je sais. Mais à part ça, ça fait... Ma culture automobile s'arrête là. Je sais combien il y a de chevaux avec la vignette que je paye annuellement. Ça, c'est moi, ma référence. Ça fait...
Mais en fait, pour faire plus, plus bref, c'est que...
Non, mais pas du tout.
D'accord, mais en fait, c'est pour expliquer que la Legend Car est une voiture très, très dure à conduire et tout dépend de la technicité du pilote et des compétences du pilote. Et c'est là où il y a un entraînement physique à faire, il y a aussi un entraînement mental, une préparation et bien sûr une fois sur le circuit, faut y aller et c'est là où le plus important c'est la concentration aussi. Donc je parlais de compétences du pilote, mais c'est aussi la concentration. Et cette concentration là fait que lorsqu'on descend de la voiture, eh bien, par exemple, si je prends l'exemple de la Legend Car, c'est une voiture qui n'a pas de fenêtre. Ma voiture n'a pas de fenêtre.
D'accord.
Elle est complètement ouverte. Et j'ai couru aux États-Unis, à Charlotte, à moins 6 degrés. Et en descendant de la voiture, j'étais trempée de sueur de la tête aux pieds.
Mais tu t'en étais pas rendu compte.
Voilà, tout à fait. Mais en fait, c'est un état dans lequel on entre. C'est comme être en transe. Parce qu'on est complètement concentré sur le circuit. Bon, encore là au Maroc, on court sur des circuits qui sont banalisés au milieu du centre-ville. Bon, là, en ce moment, ça ne se fait plus. Mais par exemple, quand j'ai à mon actif plus de 20 compétitions nationales. Mais à l'international, j'en ai 8. J'ai couru en Espagne, notamment où j'ai fait mes entraînements. J'ai couru en Russie. J'ai couru 3 fois aux États-Unis, donc pour remporter également la Coupe du Monde en 2012 à Las Vegas. Et sachant que je suis la seule femme en Legend Car donc pour concourir aux côtés des hommes. Et c'est là où, par exemple, dans les circuits internationaux, où ce sont des circuits 20 minutes de course non-stop et on court avec des internationaux qui sont très performants parce que là, on n'a pas de circuit pour nous entraîner. Donc, quand on va à l'international, les pilotes sont très performants et c'est là où on doit faire très attention. Par exemple, un simple exemple, aux États-Unis, le pilote, si on est dans sa trajectoire, il ne va pas nous doubler. Il faut nous dégager de sa trajectoire. Donc, moi, au début, ma première course que j'avais faite aux États-Unis, c'était à Charlotte et je ne le savais pas. Eh bien, le pilote m'a envoyé valser.
D'accord. Okay.
Donc voilà, je ne l'ai su que par la suite. Moi, je m'attendais à ce qu'il me double et je ne l'ai su que par la suite. Et donc, c'est là où vraiment on se mesure à des pilotes chevronnés et c'est là où on entre carrément dans la peau d'une autre personne.
Mais alors, tu sais, Mounia, en même temps, tu sais, j'ai eu l'occasion d'interviewer des femmes qui sont aussi dans des carrières sportives aussi. J'ai eu l'occasion d'interviewer Yasmine Sfioui qui est en fait dans la chasse, les armes. Hanan Boulhemiz qui est dans la tboreda féminine, mais qui court aussi aux côtés des hommes. Et elle, en fait, ces femmes, ce qu'elle me raconte, c'est que finalement, le week-end et la semaine, c'est la même chose pour elles, parce que même leur gagne-pain, au-delà de la passion, elles l'ont aligné à la passion. Donc, par exemple, d'accord. Yasmine, la chasse pour elle, c'est sa grande passion. Mais bon, elle s'est lancée dans des formations, dans un accompagnement. Donc, en rapport avec ça, et c'est comme ça qu'elle gagne sa vie. Hanan, la même chose. Elle a lancé un club de tboreda, un club d'équitation. Donc, elle reste dans le périmètre de sa passion. Toi, c'est complètement différent. Toi, la semaine, c'est dans le soft le plus absolu. C'est-à-dire, justement, même quand on te parle, c'est une voix douce, réconfortante, chaleureuse, qui vous enveloppe. Et puis, quand on voit les photos, on se dit, ben, c'est incroyable. Je parle à cette personne qui, finalement, conduit une voiture sur des routes comme pas possible, à une vitesse comme pas possible. Il y a un décalage entre les deux.
Pendant quelques années, le sport automobile justement a été ma manière de dégager parce que je suis dans le domaine de la finance,
ouais.
Et qui est un domaine très stressant. Et donc, sachant que je suis également dans les ressources humaines, dans la gestion d'entreprise, et le relationnel est très important. Donc, justement, j'accumule beaucoup de stress durant la semaine, Et le sport automobile me permet justement de me pousser à l'extrême et de dégager tout ce stress. Et ce qui fait que lorsque je reviens, ça y est, c'est comme tu l'as si bien dit au départ, c'est vraiment une thérapie. Et je reviens et c'est bon. Même pour conduire, même si je suis en retard, je n'ai même pas envie de faire de vitesse en centre-ville. Donc j'y vais tout doucement, zen. Et ça me permet justement d'avoir un relationnel avec les personnes très zen, de pouvoir gérer les situations avec beaucoup de recul. Et je pense que c'est ce que le sport automobile m'a apporté. Alors maintenant, justement, quand tu parles de en faire un métier, alors moi, dans le cadre du sport automobile, j'ai souhaité mettre au service mon expérience, justement, au service des personnes qui ont peur de conduire. Et dans ce cadre-là, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai une phrase que je répète souvent, c'est que je dis du consulting au coaching thérapie, eh bien, c'est une histoire de sport automobile et de développement personnel qui a cheminé pas à pas vers une nouvelle passion, qui est mettre mon expérience au service de l'humain. Dans quel sens ? Dans le sens où, justement, dans une démarche de développement personnel, eh bien, j'ai souhaité faire une formation en coaching et qui, petit à petit, j'ai bouclé ma première année. Ensuite, j'ai débouché sur une deuxième année, donc pour accompagner également les entreprises, donc personnel, professionnel et entreprise. Et dans ce cadre-là, je me suis dit, écoute, tu as toujours voulu mettre ton expérience au service de l'humain. Eh bien, pourquoi ne pas développer un programme pour les personnes qui ont peur de conduire, étant donné que maintenant je suis coach. Et dans cette démarche-là, j'ai commencé à accompagner les personnes qui avaient peur de conduire. Et je me suis rendu compte que justement, ces personnes-là, eh bien, si elles ont peur de conduire, c'est qu'il y a un traumatisme quelque part, c'est qu'il y a un trouble quelque part, c'est que quelque chose a généré ça. Et sachant que souvent dans le coaching, eh bien, le coaching est basé sur un objectif et mettre les moyens nécessaires, accompagner la personne pour atteindre ces objectifs-là, la thérapie vient justement réparer ce qui s'est passé dans le passé. Et c'est là où je me suis rendu compte que les personnes que j'accompagnais, une fois qu'elles étaient derrière le volant, quand elles y allaient tout doucement, que la route était vide, ça se passait bien. Dès qu'une voiture arrivait, la personne paniquait au volant. Et une fois qu'elle est paniquée, là, on fait quoi ? On a beau essayer de la coacher, si on n'a pas les outils nécessaires thérapeutiques pour l'accompagner, eh bien, on est face à un blocage. Et c'est là où j'ai été rechercher justement une formation pour la phobie. Et j'ai atterri dans une formation qui était à large éventail et qui concernait et les addictions et les phobies, les troubles de l'attachement et qui pouvait donc accompagner toutes les personnes en situation de stress, traumatisée, dépression, phobique. Mais également aussi dans la préparation mentale pour tout type de personnes et notamment les sportifs. Et c'est là où donc j'ai effectué cette formation-là, donc qui a duré quelques temps. J'ai capitalisé dessus et donc je suis revenue au coaching avec la partie thérapie. Et j'ai complété donc le programme que j'ai mis en place pour les personnes qui ont peur de conduire, donc ce qu'on appelle la maxophobie. Et donc avec un volet thérapeutique, donc où j'accompagne en amont la personne en thérapie, donc où je viens nettoyer tout ce qui a été traumatisme et tout ce qui a causé justement cette peur de conduire, que ce soit un accident, que ce soit un traumatisme par le passé, que ce soit héréditaire, de par
c'est
les
possible
parents,
aussi
transgénérationnel. Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est dans l'esprit de la femme pour le mois de mars. Donc, par exemple, une femme qui a peur de conduire, ça peut être soit dû au fait qu'elle ait fait un accident. Mm-hmm. J'ai eu des personnes dans ce sens. Ou soit que la personne a vécu avec, par exemple, auprès de sa maman qui a toujours eu peur de conduire en étant avec le papa au volant. Attention, vas-y doucement. Et la fille a grandi dans cet esprit-là. Et une fois, même si elle arrive à avoir le permis en poche, elle aura beaucoup de mal à conduire. Et j'ai eu justement affaire à ce genre de cas-là. Et c'est là où donc j'ai pu faire un 360 dans ce sens pour l'accompagnement des personnes qui ont peur de conduire, comme pour les personnes que j'accueille en coaching. Et donc en amont, je traite les traumatismes. Et ensuite, j'accompagne avec le coaching. Et sachant que pour la maxophobie, pour la peur de conduire, donc c'est d'abord la thérapie, ensuite le coaching, et pour la conduite, justement, j'accompagne la personne avec les best practices de la conduite, mais je monte avec elle en voiture également.
D'accord.
Donc jusqu'à ce qu'elle soit opérationnelle dans la conduite sur tout type de route.
Alors justement, Mounia, souvent quand on parle de conduite, de ce genre de sport, c'est souvent un homme qui initie une femme. Est-ce que c'est ton cas aussi? C'est souvent un père, un frère. Est-ce que c'est la même chose pour toi?
Du tout.
Du tout, ok.
Alors moi, je vais dire, il y a mon père. Mm. Mon père dans le sens où j'ai aimé la vitesse par le biais de mon père. Donc mon père est une personne qui avait une grande maîtrise de la conduite, qui conduisait très vite d'ailleurs, mais tout en conduisant, maîtrisait parfaitement le volant. Et d'ailleurs, bon, moi, je l'appelais Starsky & Hutch à Casablanca. Donc, c'était le petit surnom que je lui avais donné. Et quand j'ai eu mon permis, eh bien, je me suis mise à conduire comme mon père. Donc, j'avais un amour fou pour la vitesse. Et lorsque j'ai découvert le sport automobile par le biais d'un collègue avec qui je travaillais dans les débuts 2000, parce que j'ai atterri dans le sport automobile assez tardivement.
D'accord.
Pour dire que... Une passion, on peut la vivre à tout âge. Il n'y a pas d'âge limite pour ça. Et c'est un collègue qui avait proposé à tous les collègues, est-ce que ça vous dirait de venir participer à un championnat de karting? Parce que bon, lui avait intégré le sport automobile en tant que commissaire de piste. Et donc, il nous avait proposé, il y avait eu un championnat de karting qui avait été organisé. Il nous avait proposé si on voulait justement venir participer, et j'ai dit bon ben pourquoi pas, et en arrivant, eh bien, j'ai été deuxième sur le podium pour la première fois que je montais dans un kart, que je conduisais un kart, et après donc l'équipe sport automobile m'a encouragée à continuer dans ce sens.
Et ça a été la piqûre dans...
Voilà, exactement, ça a été la piqûre. À l'époque, je ne savais pas du tout que le sport automobile existait au Maroc. Et donc, justement, j'ai démarré en tant que commissaire de piste sur les circuits. Donc, le commissaire de piste, c'est la personne qui est l'intermédiaire entre le pilote et la direction de course, qui signale ce qui se passe sur le circuit par le biais de drapeaux. Donc, ce sont des signaux pour le pilote. Chaque couleur de drapeau a une signification. Et c'est là où le pilote comprend ce qui se passe sur le circuit. Donc, j'ai fait 2-3 circuits en tant que commissaire de piste. Après, on m'a demandé de gérer toute une équipe de commissaires. Et la fois suivante, eh bien, comme les voitures passaient juste à côté de mes pieds, donc j'avais les cheveux dressés sur la tête, je me suis dit, bon, écoute, la prochaine, je dois absolument être derrière le volant. Et c'est là où il y avait le démarrage de la Légende Car au Maroc. C'était en 2010 et c'est là où j'ai contacté donc les promoteurs et j'ai acheté ma propre voiture de course. Donc en fait, pour répondre à ta question, donc ça n'a pas été mon père, ça n'a pas été, donc c'est un ami qui
par hasard en
qui
fait.
M'a, voilà, exactement. Et là, ce sont toutes mes économies que j'ai mis dans l'achat de la voiture de course, l'achat de mon équipement et de mes entraînements et de mes participations à l'international, aussi bien en Espagne, en Russie qu'aux États-Unis.
D'accord. Donc voilà. Vraiment, c'est vraiment un pur hasard. C'est dingue, hein?
Tout à fait. En fait, l'histoire, vraiment, l'aventure est partie crescendo. Mm. Mais c'est une passion que j'ai affectionnée. Bon, bien sûr, à la base, il y avait mon amour pour la vitesse. Et petit à petit, c'est parti crescendo jusqu'à vraiment me professionnaliser dans cette discipline.
C'est ça. Mais alors justement, quand tu dis me professionnaliser, ça veut dire quoi, devenir professionnel? C'est gagner sa vie par ça?
Alors, devenir professionnel, c'est-à-dire professionnel dans la conduite.
Ouais.
Dans le sens où, ici, malheureusement, donc, je n'ai pas pu m'entraîner. J'ai été m'entraîner en Espagne. Et donc j'ai conduit de manière professionnelle, c'est-à-dire que je me suis mesurée aux pilotes chevronnés, donc aussi bien ici à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Et donc je n'étais pas juste là pour le fun, donc c'était vraiment pour moi partir, me mesurer aux autres pilotes et lever le drapeau marocain. Mmh. Parce que mon objectif était, bon, bien sûr, alors en l'absence de sponsor, mon objectif était d'aller disputer la finale mondiale aux États-Unis, qui a chaque année lieu en décembre, courant décembre. Et donc, j'ai tout fait, je me suis donné tous les moyens pour arriver justement à cette compétition-là. Et donc, on l'a remportée avec l'équipe marocaine. Donc, j'étais la seule femme marocaine à concourir avec 5 pilotes marocains. Et enfin, face aux autres équipes du monde entier. Et sur le circuit, eh bien, nous étions deux femmes, une américaine, une jeune américaine qui a été disqualifiée d'entrée. Et je suis restée de tout le week-end de l'événement, la seule femme sur place. Et donc, quand je dis professionnelle, eh bien, effectivement, je suis justement sur place parce que j'ai été sixième mondiale après les hommes et première féminine mondiale. Et c'est dans ce sens-là où je parle de professionnelle. Je dirais, quand j'ai commencé à participer aux compétitions internationales, à remporter des podiums, à lever le drapeau marocain, eh bien là, on commence à susciter le respect des hommes, le respect des personnes. Et bien sûr, étant avec des hommes, eh bien, il y a un relationnel qui doit être bien bâti parce que les hommes dans le sport automobile ne vont pas nous faire de la galanterie. Donc je dois me battre, je dois être là sur le circuit, je dois faire mes preuves, je dois être là à l'heure, je dois me comporter comme avec toute ma féminité, mais toujours, mais comment dire,
comme un homme.
Comme un homme. Ce n'est pas parce que quelque part, c'est-à-dire que
c'est fou, hein, mais quand on rentre dans un domaine d'homme, on a plus le droit de rester femme,
bien,
inconsciemment.
Quelque part,
c'est une réalité, Zem.
Tout à fait. Mais je dirais que j'ai conservé ma féminité, tout en étant dans un domaine d'homme. J'ai conservé ma féminité. Je me suis imposée en tant que femme. J'ai vu du respect dans le regard des autres en tant que femme, dans tout ce que j'ai fait. Et bien sûr, justement, quand tu parlais du lien, eh bien, c'est ça. C'est le fait de faire mes preuves, d'être là en tant que pilote, en tant que compétitrice, en tant que concurrente, et vraiment d'être là par mes compétences, par ce que j'ai pu acquérir. Et justement, j'ai pu faire mes preuves sans l'aide de sponsors, avec mes propres moyens. Ça n'a été ni papa, ni maman, ni mon frère, ni qui que ce soit pour venir m'acheter la voiture, m'emmener sur les circuits. Et c'est là où, justement, je reviens sur le fait que ça a suscité le respect des personnes et c'est là où ça a favorisé le relationnel. Mais également, quand je parle aussi de relationnel et de comportement, c'est-à-dire que je suis là sur le circuit, c'est pas parce que je suis une femme, je dois monter sur le podium, c'est pas parce que je suis une femme, je dois avoir telle coupe, je dois susciter l'intérêt. Bien, je suis là. Je dois faire mes preuves pour monter sur le podium. Je dois faire mes preuves pour susciter l'intérêt. Je dois faire mes preuves pour susciter le respect. Et justement, ça a été un gros travail sur moi pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et c'est là où je dis justement... Et donc tout ce travail-là a fait aussi que ça nous amène à prendre beaucoup de recul, à se poser beaucoup de questions sur nous-mêmes. Est-ce que je peux y arriver? Est-ce que je ne peux pas y arriver? C'est un challenge à relever. Je dois y arriver. Je dois me donner les moyens. Il y a eu des moments où je me suis dit, je vais baisser les bras. Il y a eu des moments où j'en ai pleuré. Donc il y a eu des moments où je suis tombée, où je me suis relevée. Je me suis dit, allez, Mounia, tu es une battante, tu dois te relever, il faut te donner les moyens. Tu as toujours su te relever, tu as toujours su comment repartir. Eh bien, il faut y aller. Et c'est là où, justement, je fais ce lien-là. Parce que c'est tout ce que moi, je me suis mise en tête et dans les conditions dans lesquelles je me suis mise moi-même en condition, eh bien, c'est ce que j'apporte moi dans mon accompagnement en coaching et en thérapie. C'est ce conditionnement-là dans lequel je me suis mise moi. Mm-hmm. Et c'est, je ne sais pas, est-ce que je peux dire de l'énergie? Est-ce que je peux dire, c'est une énergie personnelle? Est-ce que c'est... Une force intérieure peut-être.
C'est ça, qui se construit en fait.
Voilà, tout à fait. Et c'est cette force-là que j'essaie d'apporter aux personnes dans mon accompagnement. Et alhamdoulilah, jusqu'à présent, ça a bien marché.
Mounia Loulidi, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci de nous avoir inspirés.
Merci beaucoup. Merci à toi Yasmine, merci pour ton invitation et ravie.
N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.